Bonjour à tous. Les élèves de 4e B sont fiers de vous présenter leur travail autour d'un projet qui s'appelle Réfugiés d'hier et d'aujourd'hui. Ce travail s'est déroulé en deux parties. Les élèves ont d'abord travaillé sur des portraits de migrants pour retracer leur parcours, puis ils sont partis en voyage pédagogique sur les traces de la retirada et pour parler du cas des migrants au travers du temps et de notre société. Ils sont très fiers de vous présenter leur travail sous forme de podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute à tous. Merci.
Bonjour, nous sommes un groupe de 4e B. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Antonio de la Fuente.
Antonio de la Fuente est né en Cerdagne. Il est parti car Barcelone est occupée par les troupes franquistes. Le père d'Antoine prévient la famille qu'ils doivent se préparer à fuir vers la France. Antoine, sa mère, son frère et sa sœur, sa grand-mère maternelle ainsi que d'autres membres de sa famille partent pour la tour de Carala.
En février 1939, ils partent en train pour le camp de Verdun, près de Rennes. Le père et le grand frère d'Antonio se retrouvent au camp d'Argelès. Le père tomba gravement malade et est envoyé à l'hôpital de Perpignan, puis est envoyé au camp de Barcarès. Le fils aîné est envoyé rejoindre sa famille au camp de Verdun. La famille est transférée au camp de Ours-Nouveau. Transfert vers le département de Puy-en-Dôme, arrivé à Châteauneuf-les-Bains.
Arrivé au camp de Rivesaltes, la famille ne sera pas séparée car la mère a eu la présence d'esprit de déclarer Antoine et son frère car ils ont 14 ans et peuvent rester dans l'îlot des femmes. Arrivés à Château-les-Bains, ils sont autorisés à circuler aux alentours du village et à trouver du travail dans les fermes. Ils se retrouvent ensuite dans un centre d'accueil à Combronde.
Le père travaille à Perpignan au sein du CIE, Compagnie de Travail Étrangère, et Antoine obtient son CAP, part pour Perpignan travailler comme ajusteur-tourneur. Nous vous remercions d'avoir écouté l'histoire de Antonio de la Fuente.
Bonjour, je m'appelle Maureen. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la vie de Paul Niederman, un ancien migrant juif, né en 1927 et décédé en 2018, à l'âge de 91 ans.
Paul est né à Karlsruhe. Il est de nationalité allemande, mais de religion juive, ce qui, dans ces années-là, était très mal vu. Étant enfant, il a dû partir car la Gestapo, ancienne police allemande, était arrivé chez lui car il était juif. La Gestapo leur avait dit de prendre toutes leurs affaires et qu'ils allaient partir en wagon. Il se fit alors transporter au camp de concentration de Kursk. En mars 1941, Paul et sa famille sont transférés au camp de Rivesaltes par camion. Paul et Arnaud, son petit frère, quitte Rivesaltes grâce à Sabine Zlantin et l'OSE. Leurs parents, eux, n'eurent pas cette chance. La mère de Paul fut transférée à Auschwitz, camp de mise à mort et de concentration en Pologne, et fut gazée. Pour leur père, ils avaient perdu toute trace de lui. De 1942 à 1943, Paul séjourne dans plusieurs maisons d'accueil. Sa condition de vie dans ces endroits était assez misérable, mais lui permettait cependant de vivre. En 1945, Paul travaille dur pendant 3 ans dans des organisations de la banlieue parisienne. Après 1948, Paul enchaînera les petits métiers et travaillera comme journaliste dans la presse automobile ou encore comme photographe avec sa femme. Il travaillera également comme traducteur d'allemand. Le 1er juin 1982, Paul témoignera au procès Barbie en France et en Allemagne.
Bonjour à toutes et à tous.
Ici Brun Sacha,
Baron Rodrigue,
Cruzia Maëlys,
Boussomar Thibault
et Cuberos Naïs.
Nous allons vous présenter l'histoire d'un immigré italien
Giorgio Molosi.
Pour commencer, Giorgio Molosi est d'origine italienne. Il vient plus précisément de Gravagna et il est né en 1942. Giorgio Molosi appartient à une famille des plus banales.
Mais c'est en 1951 que lui et sa famille décident de quitter le pays pour aller en Argentine rejoindre son père qui, lui, y est déjà depuis 2 ans.
Ils vont partir de Genève et vont embarquer dans le bateau Corte Grande. Le voyage va durer 8 jours et 8 nuits.
Il y a 2000 ou 3000 personnes à bord. En Argentine, Giorgio allait à l'école des prêtres jusqu'à 14 ans, puis il va commencer à travailler.
Malheureusement, en 1960, la famille Molosi dut partir en France à cause de l'augmentation des prix en Argentine.
Une fois débarqué au Havre le 14 juillet 1960, Giorgio va déclarer « Les gens étaient plus fermés qu'en Amérique latine ». La famille va donc s'installer à Champigny. Cela va être très dur car il ne parle pas le français. Mais heureusement, il avait de la famille du côté paternel qui les ont accueillis en France.
Après toutes ces aventures, Giorgio Molosi est devenu tourneur sur fer. Mais il était aussi syndicaliste. 40 ans plus tard, il a toujours le même métier et également des enfants. Conclusion. Dans le monde, il y a différentes personnes avec des origines différentes qui quittent leur pays pour diverses raisons, comme dans le cas de Giorgio Molosi.
Il a quitté son pays d'origine pour une raison familiale et a quitté le pays où il a grandi pour une raison financière. Mais malgré ça, il a réussi à se construire une famille et à s'adapter à son nouveau pays.
Hello, je m'appelle Bastien, je vais vous parler des conditions d'accueil de Rama Neymar Hamalou, qui a migré d'Algérie jusqu'en France. Ils arrivent au camp de Bourg-Lastic où ils trouvent de la nourriture, mais en contrepartie, ils doivent la préparer. Puis, ils vont au camp de Rivesaltes où ils dorment dans des tentes et des baraques en famille, et ils cuisinaient et lavaient. À présent, je vais vous parler des professions que Brahim Mamalou a exercées d'abord en Algérie, puis en France. Brahim Mamalou est cultivateur et chef de chantier dans les eaux et forêts. En France, il est embauché dans une entreprise de tapis comme simple ouvrier.
Aujourd'hui, on va vous présenter le parcours d'Ang Liang, qui est une réfugiée du Vietnam. Je laisse la parole à ma collègue Capucine, qui va vous raconter les raisons qui l'ont motivée à partir de chez elle.
Merci Nizar. Dans l'ancien pays d'Ang Liang, le Vietnam, elle était très pauvre et elle fuyait les persécutions. Ce n'était pas la seule à fuir, car la chute de Saigon le 30 avril 1975 a causé beaucoup d'événements, comme l'exode d'un million de personnes du nord au sud. Près de 200 000 personnes se sont enfuies avec les derniers hélicoptères américains et peu à peu se mettent en place des filières de fuite par la mer. Ce n'est pas juste à cause de cela, il y a aussi le nouveau gouvernement qui va mettre en place un régime drastique qui va pratiquer une politique de vengeance et de colonisation du sud du pays et qui va créer des camps de rééducation pour les mauvais éléments du système. En résumé, il y a eu de l'effondrement de leur niveau de vie.
Maintenant, je laisse place à Salomé qui va vous partager l'itinéraire et les conditions de voyage d'Ang Liang et des autres réfugiés.
Pour rejoindre la France, Ang Liang est parti avec son frère en pleine nuit en 1987. Ils embarquent sur un petit bateau en bois avec 169 autres réfugiés serrés à ne pas pouvoir s'asseoir. Le bateau est arraisonné par Médecins du Monde et Ang Liang comprend qu'elle est sauvée. Peter Thunsen était sur le bateau, il deviendra son tuteur.
Merci Salomé, mais Malone, quelles en sont les conditions d'accueil?
Eh bien, le 22 juillet, les réfugiés sont accueillis par Philippe Séguin et par Bernard Kouchmer. Comme Hai Hong sont mineurs, elles sont dirigées dans un foyer puis dans une famille française à Rouen, proche du ministère.
quelle était la profession de la Vietnamienne dans son pays d'origine?
Eh bien, figurez-vous qu'elle n'avait pas de métier car elles étaient mineures. Elles n'avaient que 12 ans.
Et dans son pays d'accueil?
Aujourd'hui, Hang Luong tient une boulangerie en France.
Merci pour votre attention à tous et à bientôt.